Gérard Lallier, Aerospace Valley, les systèmes embarqués, ou en année de l'innovation, que viendrait faire la créativité dans ce monde barbare?
Merci Pierre. Donc, alors, j'ai emprunté à un artiste aujourd'hui retraité, je pense, Guy Bedos, une technique de présentation. Donc, je vais commencer ma présentation par une revue de presse. Voilà, innovation, quand vous regardez un petit peu ce qui sort dans la presse, c'est le temps se gâte. On est dans un monde où le temps des innovations de rupture, qui était un facteur de croissance élevé depuis 2 siècles et demi, est terminé. Il n'y a plus d'innovation de rupture. On le retrouvait également plus directement dans une industrie qui nous est chère, Agnès et à moi, l'aéronautique. Vous voyez ce genre d'article dans l'Usine Nouvelle. L'aéronautique sacrifie l'innovation de rupture sur l'autel de la réduction des coûts. L'innovation de rupture devient quasiment non rentable. Dans le secteur de l'aéronautique civile, avant qu'il y ait des acteurs comme les Russes ou les Chinois qui viendraient concurrencer Airbus et Boeing, on est dans une situation où ces entreprises ont plutôt décidé de faire une pause dans le développement qui était considérable de produits nouveaux depuis une trentaine d'années, quoi. Donc, est-ce que le paysage que je vous dresse là est pas très encourageant? Ceci étant dit, il y a quand même des espoirs qui naissent. On trouve cet article-là dans l'Usine Digitale. En fait, d'accord, on ne fait plus d'innovation de rupture, mais l'innovation incrémentale, la recombinaison d'un certain nombre de technologies permet d'avoir des produits qui sont extrêmement intéressants, qui répondent aux besoins des utilisateurs et qui permettent de développer pas mal de choses. Effectivement, les innovations techniques actuelles nous donnent, comme jamais auparavant, la possibilité de recombiner. Et donc, on est peut-être effectivement en train de passer d'une démarche d'innovation de rupture systématique à une démarche où on va recombiner un certain nombre de technologies, ou pas que des technologies d'ailleurs, pour arriver à sortir un certain nombre de technologies nouvelles, de produits nouveaux, de services nouveaux. Et donc, en particulier, la fertilisation croisée devient un vecteur d'innovation considérable. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous a donné envie de structurer ça au niveau d'Aerospace Valley, sachant que nos grands groupes leaders ont commencé complètement à s'ouvrir, plus qu'on ne le faisait sans doute les années auparavant. C'est-à-dire que l'innovation venait de l'intérieur, disons, depuis un certain nombre d'années. Là, depuis quelques temps, on cherche à vraiment complètement diversifier les sources d'innovation. Donc, vous avez, il y a quelques temps, un Airbus Group qui installe un centre d'innovation au cœur de la Silicon Valley pour aller s'inspirer de ce qui a fait la réussite de cette vallée aux États-Unis. Ah, tiens, j'ai un petit problème. Non, c'est passé de l'autre côté. Voilà, encore. Donc, vous avez également la création depuis peu d'une structure qui s'appelle le BizLab chez Airbus, au niveau avion à Toulouse, qui consiste à créer une structure d'incubation en fait, de start-up ou de projets qui viennent d'ailleurs de l'intérieur d'Airbus ou de l'extérieur. Le BizLab est capable d'incuber un certain nombre de projets à partir d'entreprises extérieures. Et puis, je vais terminer sur ces inspirations par une citation de Jean Botti, qui est le responsable au niveau de tout Airbus Group de l'innovation, qui explique que, d'accord, c'est bien beau tout ça de recombiner, mais enfin, il faut d'abord changer les mentalités. Cette dimension est aussi importante, sinon davantage que les technologies. Nous, on est des ingénieurs. Notre ADN, c'est ça, dans nos entreprises, c'est notre culture d'ingénieur. Et on n'est pas encore tous passés par le cursus de super-héros qui ouvre ça. Nous sommes tous similaires et c'est là que se situe le danger. Donc il faut vraiment, pour nos entreprises, prendre conscience, et on commence à le faire avec ce que je viens de vous expliquer là, de la nécessité d'ouverture et de la diversification vers d'autres secteurs. Alors, juste deux, trois exemples qu'on a commencé à mettre en place au niveau d'Aerospace Valley. Donc, on est en train de travailler en interclustering pour ouvrir les marchés de nos entreprises à des secteurs qui ne sont pas du tout l'aéronautique et l'espace. Agnès a mentionné l'agriculture. On fait aussi pas mal de choses dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports intelligents. On va sans doute encore aller dans d'autres secteurs. L'énergie, on commence à faire des choses intéressantes. Je pense que la mer est aussi sans doute une source de diversification pour les entreprises qui est intéressante. Et donc ça se fait. comment dire, ce genre de démarche ne peut pas se faire tout seul. On est obligé, et si on veut que ça réussisse, il faut s'acculturer avec des entreprises, avec des clusters, etc., qui sont dans ces secteurs-là, comprendre les besoins et travailler ensemble. Donc voilà, donc le but de ça, c'est d'identifier les besoins que nos entreprises peuvent satisfaire et créer des produits et des services qui sont qui correspondent à ces besoins-là. Donc on commence aussi, alors ça c'est notre première démarche quelque part un peu structurée de diversification, on commence aussi à travailler en décloisonnant. On a cet outil d'appel à idées large spectre, je dirais, qui consiste à donner un thème de réflexion à nos entreprises, à nos laboratoires, et puis charge à eux de nous proposer des idées complètement innovantes. Donc je pense que Patrick Zemlianois tout à l'heure va évoquer un appel à idées qui nous est cher, qui va justement mixer la partie art et industrie. On a également lancé une thèse en interne sur la créativité. Donc voilà, c'est des sujets qu'on cherche à développer vraiment pour ouvrir le pôle, nos entreprises à ces secteurs-là. Et enfin, donc, j'en arrive au thème du jour, effectivement, se frotter aux plus créatifs, les artistes. On a fait un premier tea time. Agnès parlait d'expérience, un petit peu timide, on va dire. On a essayé de faire un tea time là, au mois de juin pour vraiment mettre cette démarche sur la place publique vers l'ensemble de nos adhérents pour voir un peu si on était tout seul un peu à penser ça ou s'il y avait vraiment ou si on était suivi quelque part. Et ça a été extrêmement, extrêmement intéressant. Il y avait une soixantaine de personnes qui étaient là où on a montré un peu le lien et ce que pouvaient apporter, ce que pouvaient apporter les artistes et l'industrie. Je pense que l'inverse est déjà largement éprouvé quand on voit ce qu'Aurélien sait faire avec un robot qui est absolument remarquable. Je pense que l'idée, ça va être de faire l'inverse, c'est-à-dire d'arriver à avoir cette inspiration artistique dans la création de nouveaux produits. Et donc, c'est pour ça qu'on pense beaucoup que le crime peut payer. Et qu'en structurant cette démarche avec ce que nous propose Pierre, on devrait arriver à quelque chose d'assez intéressant.